la pause maternelle. Nous revoilà avec Floriane qui vient témoigner sur sa maternité avec un TND. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, donc on vous propose ce petit bonus. Je pense que ce serait intéressant que Floriane nous raconte l'arrivée de ses enfants et l'impact que ça a pu avoir dans son quotidien avec un TND, justement.
Alors, j'ai eu deux grossesses compliquées. Donc, on va dire qu'en termes de stress et d'anxiété, j'étais plutôt dans les sommets. Pour la grande, donc, comme j'ai pu expliquer sur la première partie, il y a eu une pré-éclampsie. Donc, il a fallu déclencher l'accouchement. Elle est née avec un petit poids. Donc, on a eu une bonne partie d'hospitalisation entre soins intensifs et puis après la couveuse. Donc, ça fait traumatisme quand même quand c'est ton premier enfant. C'est pas du tout comme ça que t'imaginais accoucher. Déjà, tu sais pas. T'as pas trop dit comment est-ce que c'était.
Est-ce qu'on t'a préparé justement à ce que potentiellement il se peut que ta fille parte en soins intensifs?
Pas du tout. Pas du tout. J'avais eu, comment ça s'appelait, la préparation à l'accouchement ou...
L'autonomie, non ?
L'autonomie, voilà, parce que je voulais vraiment pouvoir associer le papa à cette grossesse. Mais on ne m'a absolument pas préparée à quelque chose de compliqué. Et c'est vrai que je me suis sentie assez seule dans la bataille, comme on peut l'imaginer. Après, j'ai été très bien prise en charge. C'était à l'hôpital de Villefranche en néonatalité, où là, j'ai bien vu que le personnel était formé et m'a beaucoup soutenue sur cette période d'hospitalisation. On a pu faire du pot à pot avec ma fille.
Rappelons-le, est essentiel dans ces encore plus essentiel dans ces
moments. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre son bébé contre soi plusieurs fois par jour, qu'il puisse retrouver la chaleur du corps du parent, les odeurs.
Se réguler au niveau cardiaque aussi.
Aussi, alors ça je ne le savais pas, mais je vous fais bien confiance, c'est vous les expertes.
Aujourd'hui, ils le disent que c'est vital en fait, presque le pot à pot sur des bébés qui sont nés prématurés.
Alors moi, je l'avais plus sur l'aspect psychologique dans mes études éducatrice spécialisée, même si je ne suis pas éducatrice de jeunes enfants. On avait une partie quand même sur la psychologie et le développement du tout-petit. Donc j'avais vraiment de toute manière envie d'aller sur cet accompagnement. Je parlais beaucoup, beaucoup à mon bébé. Dès que je le touchais à travers la couveuse, je lui expliquais pourquoi je le touchais, ce que j'allais lui faire quand il fallait changer la couche, etc. Je pense que vraiment, ma formation a été très aidante et soutenante à ce moment-là. Ma priorité, c'était de rassurer mon bébé. Parce que ce qu'on avait traversé ensemble, ça avait été tellement éprouvant qu'il fallait que je lui dise que j'étais toujours là et que je serais là pour la protéger et l'entourer. Donc, une fois qu'on est rentré à la maison, moi, j'étais beaucoup sur le qui-vive, mais ma grande s'est portée très bien et ensuite a eu un développement tout à fait correct, enfin a priori, puisque là on lui a diagnostiqué le TDAH. Et puis ensuite j'ai eu ma deuxième. Là, ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué parce que déjà d'entrée de jeu j'étais en grossesse à risque de par la pré-éclampsie de son aîné.
Parce que j'aimerais juste expliquer aux auditeurs, c'est que à partir du moment où on a une grossesse à risque, toutes les suivantes seront considérées comme grossesse à risque. D'office, même si la grossesse se passe bien, c'est grossesse à risque d'office.
Voilà, donc vous avez du monitoring, une infirmière qui passe très régulièrement, je sais plus combien, au moins de manière mensuelle, je sais pas si c'est pas tous les 15 jours, vérifier que tout tout va bien. Et puis, pas de chance pour ma petite et moi. La première échographie n'a pas été bonne. Elle avait la clarté nucale, donc une épaisseur au niveau de la nuque qu'on calcule, qui n'était pas du tout dans les clous. Donc là, vous entamez un parcours qui est très, très anxiogène parce que vous ne savez pas si votre enfant a une anomalie ou pas. Vous ne savez pas si votre grossesse va pouvoir arriver à terme. Vous ne savez pas les conséquences sur votre enfant. Il a fallu attendre le 6e mois de grossesse. Donc, vous sentez déjà bien votre bébé bouger pour savoir si, s'il va être, entre guillemets, viable ou pas. Donc, ça a été... c'est là où ma dépression a vraiment pris de l'ampleur. Donc, j'ai été accompagnée par une psychologue à ma demande pour me soutenir dans cette épreuve-là.
Enfin, c'est toi qui, là, tu nous expliques que c'est toi qui as demandé à la psychologue, mais est-ce qu'on te l'avait proposé ?
Très sincèrement, j'en ai aucun souvenir. Je me souviens d'un parcours hyper médicalisé, d'examens à enchaîner, de tensions à prendre, de choses comme ça, mais je n'ai pas. Il fallait aller vite, il fallait faire des protocoles, ça je m'en souviens très bien. Mais je ne sais plus ce qu'on m'a proposé à côté. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de formations adaptées du côté de l'hôpital. Heureusement pour ma petite, elle est née à terme par voie basse, sans souci. Ce qui a été compliqué par la suite, c'est que j'ai eu peu de temps pour me remettre de cette grossesse que ma petite, à ses 18 mois, a eu un AVC. Donc, c'est assez rare. À l'époque, c'était 50 cas par an en France. Cette particularité nous est tombée dessus. Ça peut expliquer, on ne sait pas en tout cas, mais ça peut expliquer ou amplifier le TSA qu'on lui a diagnostiqué à ses 8 ans, parce que tout ce qui est atteinte cérébrale peut avoir des impacts sur les troubles neurodéveloppementaux.
Comme la prématurité, d'ailleurs.
Comme la prématurité. Alors, ma grande n'a pas été une grande préma, mais effectivement, si vous êtes grand préma, il y a des risques de développer un handicap comme les TND. Nous, on a tout pris, on a pris le package avec ma fille. C'est tout ou rien dans la famille. En tout cas, voilà, il y a eu un parcours de soins très intensif pour ma deuxième jusqu'à ses 5 ans, parce qu'on nous explique bien qu'on ne sait pas donc quel impact l'AVC peut avoir sur son développement. Donc ils attendent qu'il rentre au CP pour s'assurer que tout va à peu près bien. Je pense que c'est ce qui a retardé le diagnostic pour elle de TSA et de TDAH. Aujourd'hui, j'ai deux belles jeunes filles qui sont scolarisées. Ma grande est en quatrième. Voilà, les troubles de l'attention sont effectivement bien présents. C'est-à-dire que vous pouvez lui parler. Alors, comme les ados, hein, ils répondent pas. Mais alors, quand vous avez des ados avec un TDAH, il faut vraiment calculer de longues minutes pour que ça réagisse. Elle s'éparpille beaucoup. Elle est pas très ordonnée, structurée. Alors. C'est des choses communes, encore une fois, aux ados. Quand vous avez un TDAH, c'est amplifié. Donc, ça demande vraiment d'être derrière, de structurer. Et
quand tu as déjà des difficultés avec les fonctions exécutives...
Et quand toi-même, tu as des difficultés avec les fonctions exécutives, voilà. C'est combo. Ça peut faire des grosses tensions à la maison. Et ma deuxième, par contre, alors son TDAH va faire qu'elle parle fort, qu'elle coupe la parole. C'est un vrai zébulon, elle ne tient pas en place. Elle croque la vie, hein. elle est formidable. Je pense qu'avec le parcours de vie qu'elle a eu, elle prend une belle revanche. Sur son TSA, ça va être un... les transitions vont être compliquées. Il y a eu tout un travail sur la vêture parce qu'elle ne supportait pas de mettre la couture des chaussettes, donc elle met des chaussettes à l'envers. Pendant longtemps, elle ne supportait pas les étiquettes, il fallait les couper systématiquement. C'était des joggings parce que le jean, c'était une matière qu'elle ne pouvait pas supporter. Donc...
Des fois, se balader tout nu aussi parce que bon, c'est beaucoup plus simple que de...
Voilà, alors c'est clair qu'en termes de pudeur, elle y est pas encore. Elle apprend parce que la puberté... s'annonce imminente. Donc ça aussi, ça va être un autre challenge. Mais c'est vrai que Brune, elle va... Ah ben voilà, j'ai dit son prénom. Elle va avoir besoin...
Un magnifique prénom.
Ça veut dire bouclier. C'est pas pour rien que j'ai pris ce prénom-là. Et elle le porte effectivement très bien. Elle a besoin que les choses soient très ordonnées, très ritualisées. Actuellement, elle est en vacances avec son papa à l'île de la Réunion. C'est formidable. Mais par exemple, si vous avez besoin de savoir ce que c'est l'île de la Réunion, faut pas demander à une petite fille comme la mienne qui va être dans son fonctionnement très autistique et TDAH, c'est-à-dire qu'elle va vous parler plutôt de sa partie de switch qu'elle a fait il y a 5 minutes. Elle va vous dire tout ce qui est désagréable pour elle,
tout ce qui la gêne,
ouais. Voilà, tout ce qui est pas comme d'habitude. Donc voyager avec un enfant qui a ces troubles là, ça se prépare, c'est pas super, c'est les vacances, ça peut être vraiment très très compliqué. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui vous demandent de réinventer votre parentalité quand vous avez des enfants avec des TND.
Et quel message final tu pourrais donner d'espoir ou en tout cas juste de vérité aux parents qui ont des enfants avec des TND ?
Alors, la première chose pour moi, c'est un accompagnement. Ça, c'est clair et net. Tout seul, je pense qu'on ne fait qu'amplifier ses souffrances et son mal-être. Ça, c'est mon vécu qui le transcrit comme ça. Et puis, voilà, mes filles, comme je vous disais, elles sont scolarisées. Elles ont des amis, elles ont une vie sociale. Moi, je suis aujourd'hui libérale. J'ai un chéri, j'ai une maison, j'ai des chats. Donc, on peut tout à fait vivre avec des TND, être soi, avec des adaptations, parce qu'il faut apprendre à connaître ses particularités une fois qu'elles sont apprivoisées. Je pense que le possible est tout à fait permis.
Merci.
Merci beaucoup,
merci à vous
pour son témoignage. La pause maternelle.